Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode qui inaugure la deuxième saison de Carnet de Passage. Je suis Julia et je suis toujours accompagnée de mes camarades Lola et Robin.
Bonjour.
Bonjour.
Tout d'abord, nous tenions à vous remercier chaleureusement de vos écoutes et de vos retours et nous sommes plus que ravis de vous retrouver pour une saison 2 avec de nouveaux invités, mais aussi une nouvelle voix qui rejoint notre table. Alors, il n'est pas nouveau dans l'équipe car il participait déjà à l'écriture des épisodes de la première saison, mais il est maintenant revenu de son long terrain en Polynésie française et nous en sommes très heureux. Bonjour Alexis.
Bonjour, je suis très heureux aussi d'être autour de cette table.
Dans cet épisode, nous recevons Ren Yuho, chargé de recherche au CNRS et membre du laboratoire interdisciplinaire Solidarité, Société et Territoire à Toulouse. Bonjour Ren Yuho et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à toi et à tout le monde d'être là et je suis très content de pouvoir faire cette expérience avec vous.
Nous aussi. Ren Yuho, vous avez soutenu une thèse à l'INALCO en 2018, alimentée par une ethnographie sur les continuités et les changements des pratiques matrimoniales au village de Tiang, dans la province du Henan, en Chine. Votre travail interroge en profondeur les transformations des rites et des processus du mariage, en vous interrogeant s'ils sont le signe d'une évolution fondamentale de cette institution en Chine rurale, ou bien s'ils s'inscrivent dans un cadre structurel qui demeure inchangé. Vous nous invitez ainsi à repenser ces transformations comme un changement dans la société plutôt qu'un changement de la société. Cette approche nous permet donc de mieux saisir les dynamiques subtiles qui façonnent la vie sociale et familiale dans la Chine d'aujourd'hui. Ensuite, dans le cadre d'un post-doctorat au sein du programme HospiCovid, vous avez travaillé sur la Covid en France dans un des plus importants hôpitaux de Paris. Avant de vous pencher plus récemment sur les questions de nouvelles formes de conjugalité en Chine urbaine, notamment en abordant la gestation pour autrui et la procréation médicalement assistée. Je me permets d'ajouter aussi que votre travail de thèse dont nous discuterons principalement aujourd'hui a fait l'objet d'une publication aux presses de l'INALCO sous le titre « Négociations et compromis, pratiques matrimoniales en Chine rurale contemporaine ». Est-ce que vous avez des choses à compléter ou à ajouter ?
Non, il n'y a rien à dire. Vous avez super bien résumé à la fois les contributions de la thèse, mais aussi mon parcours, donc c'est super.
Votre premier terrain s'est ainsi fait dans votre village natal. Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu la situation sur place et donc le contexte de votre terrain ?
Oui, très bien. En fait, oui, j'ai commencé ma thèse donc, en 2013 et j'ai fini en 2018. Et à ce moment-là, oui, je voulais faire une étude ethnographique sur le mariage en Chine, surtout en milieu rural. Et du coup, je me suis dit que voilà, pourquoi pas faire ça dans mon village natal. Ça va être un peu plus simple au niveau de l'apprentissage du langue, donc je n'ai pas besoin de le faire. Et aussi, comme je connais assez bien du monde là-bas, et du coup, ça pourrait être une très bonne opportunité et surtout de pouvoir réaliser une thèse assez rapidement, comme on le sait toutes et tous. L'enquête de terrain est souvent très compliquée, qui prend vraiment du temps. Et là, comme je connaissais un peu la langue et puis je connais un peu les gens, donc je me suis dit que voilà, ça pouvait être un peu plus rapide.
Parler d'un petit village, on est sur, rural, on est sur une population de combien de personnes à peu près ? Est-ce que vous parlez de petite concentration quand même à la base ?
Donc c'est un petit village de 1700 habitants la majorité des habitants portent le même nom de famille. Hein. Donc c'est vraiment un village où la plupart des habitants sont des parents, dans le sens général. Et que comme là, c'est en milieu rural, dans les années donc, 2010, et il y avait quand même beaucoup de changements, c'est-à-dire les jeunes villageois aujourd'hui en Chine, quelle que soit la région, choisissent souvent de partir de leur village pour travailler en ville en tant que travailleurs migrants, ce qui fait que la dynamique de la vie rurale en Chine rurale, en milieu rural, est assez différente en fonction du moment. Par exemple, pendant la période de la fête du Nouvel An chinois, ben, tout le monde rentre au village. Ben, là, c'est hyper animé, hyper dynamique. Mm. Alors que dans les autres moments de l'année, c'est assez calme. Ce sont souvent des personnes âgées qui sont au village.
D'accord. Est-ce que, avant d'entrer un petit peu plus dans les détails, vous pouvez nous expliquer comment ça se passe le mariage dans le village où vous étiez ? Est-ce qu'il y a beaucoup de différences entre les différentes régions, les différents villages ? Histoire qu'on puisse visualiser un petit peu.
Oui, tout à fait. Alors, le mariage en Chine, donc c'est vrai que je parle du mariage dans ce petit village-là où je suis né. Et on sait que la Chine est très grande. Voilà. Il y a une grande disparité entre le milieu rural et le milieu urbain. Mais aussi, il y a plusieurs populations, enfin plusieurs, minorités ethniques ou, des ethnicité, ça veut dire qu'en Chine, voilà, il y a au moins 55 populations, enfin ethnies minoritaires. Et ce qui fait que les pratiques sont assez diverses et différentes. Donc là, je me suis vraiment concentré sur mon petit village natal et puis j'ai travaillé vraiment sur le mariage dans ce village-là. Et ce qui se passe dans ce village-là, c'est que le mariage, comme toutes les pratiques matrimoniales, je pense, dans le monde, il y a différentes étapes assez classiques. Donc, le choix du conjoint, il faut d'abord trouver un partenaire ou une partenaire. Et ensuite, voilà, une fois que le choix est fait, les deux familles vont commencer à négocier un petit peu les échanges matrimoniaux. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on va donner comme dot, comme prix de la fiancée. Et après, forcément, il y a la cérémonie en tant que telle. Donc, le jour J du mariage qui est assez... importante voilà, tout au long de ce processus.
Et vous, dans votre étude, vous avez supervisé toutes les étapes du choix du conjoint jusqu'à la cérémonie ou vous êtes concentré plus en particulier sur le processus de préparation du mariage ?
Et dans ma recherche, c'est vrai que je me suis vraiment concentré sur l'ensemble du processus matrimonial.
D'accord.
Mais par contre, je ne me suis pas intéressé à la vie post-maridale, hein, ce qui est un peu étrange parfois parce que je m'intéresse au mariage, mais une fois que le mariage a eu lieu, mais du coup, c'est fini
c'est
l'enquête.
Fini,
voilà.
Ouais. Okay.
Et ce qui fait que c'est vrai que, par exemple, je parle de l'amour entre les conjoints ou comment le mariage est important, mais après ça, je ne précise pas vraiment qu'est-ce qui se passe après. Voilà. Ça peut être un peu frustrant parfois.
Ouais. Oui, c'est sûr.
Vous nous parliez d'une saisonnalité. Quand est-ce que se déroulent les mariages ?
Oui, très bonne question. Ça a beaucoup changé, effectivement. Aujourd'hui, en milieu rural, la plupart des mariages a lieu à la fin d'année lunaire. Donc, ça veut dire aux alentours du Nouvel An chinois. Par exemple, l'année prochaine, le Nouvel An chinois, c'est le 29 janvier, si je me souviens bien. Et du coup, ça veut dire que la plupart des mariages en milieu rural aura lieu donc, en janvier, donc, selon le calendrier grégorien, et un peu en février, donc après le Nouvel An chinois.
D'accord.
Et donc ça, c'est un changement assez important parce que comme le rythme de vie change en milieu rural, comme tout au long de l'année, les jeunes villageois partent en ville pour travailler, ce qui fait qu'ils sont beaucoup moins présents en village et du coup, ça veut dire que le mariage, c'est assez difficile d'organiser un mariage quand les jeunes ne sont pas là.
Et
là,
oui.
Pendant la période du Nouvel An chinois, tout le monde rentre et c'est à ce moment-là qu'on va vraiment commencer à organiser une grosse fête, donc une grande cérémonie permettant justement de faire venir tous les gens pour fêter, pour témoigner aussi à ce moment important de la vie.
D'accord. Et vous travaillez du coup avec seulement les couples ou avec l'entièreté des familles des conjoints ? Et est-ce que aussi vous avez accès autant à la part masculine du mariage et à la part féminine aussi ?
Oui, en fait, c'est vrai que je voulais travailler sur... On dirait toutes les personnes qui sont impliquées dans un mariage, donc bien sûr les protagonistes principaux, hein, donc le mari et la mariée, mais aussi donc les parents de deux côtés, et y compris aussi donc au sens large, hein, donc toutes les personnes qui sont impliqués dans l'organisation du mariage. Ça, c'est
d'accord.
L'idée vraiment principale. Mais c'est vrai qu'une fois sur le terrain, j'ai réalisé que ce n'est pas tout à fait si simple que ça parce que les gens ne voulaient pas, tout le monde ne voulait pas parler de ça avec moi. Et par exemple, ce que vous avez dit là sur la question des hommes ou des femmes, on voit très bien que c'était assez simple de discuter avec des hommes ou avec des femmes très âgées, donc qui ont plus de 60 ans, mais quand il faut discuter un peu plus avec des jeunes femmes de, je sais pas, 20 d'années, 30 d'années, ça devient un peu compliqué, parce que à la fois moi je suis un homme et ça peut prêter donc des ambiguïtés quand je vais discuter avec des jeunes femmes célibataires ou même des jeunes femmes tout récemment mariées, et aussi parce que faut pas oublier aussi que je suis aussi un membre du village, ce qui fait que les gens parfois ça les embête aussi de me raconter par exemple les secrets familiaux, ce sont des choses que je n'arrive pas vraiment à obtenir comme information, par exemple.
Parce qu'il y a une dimension de secret aussi dans tout le processus du mariage.
Oui, sur le mariage, je dirais même sur tout niveau de la vie, il y a des secrets. Et du coup, là, je travaille vraiment sur, on peut dire, sur la normalité, ce qui se passe, tout ce qui convient en fait, à tout le monde. Mais forcément, j'ai du mal à avoir des informations sur l'adultère, par exemple, ou sur les relations extra-conjugales.
Ah, ben
oui. Par exemple, les gens ne voulaient pas du tout me parler. Ou des rapports même, rapports sexuels avant le mariage, par exemple. Mmh. Je ne suis pas sûr que tout le monde a vraiment envie de me partager cette information-là si ces gens-là ne voulaient pas que les autres villageois le sachent.
Ouais. D'accord.
Et comment est-ce que vous organisiez, du coup, votre terrain concrètement? Comment ça se passait? Vous alliez chez les gens? Vous faisiez des rendez-vous avec les couples?
Et, oui, ben, pour le terrain, et, vous le savez aussi, hein, donc c'est une enquête ethnographique. Il faut, dans le meilleur des cas, qu'on arrive sur place et puis on vit avec des gens. Ben, c'est ce que j'avais fait. Et puis c'était assez simple parce que mes grands-parents vivaient encore dans le village, ce qui voilà, est une grande facilité. Et une fois sur place, c'est vrai que je passe mon temps à discuter avec des gens, mais même dans le coin de la rue ou dans des salons de thé. Alors, ce sont vraiment des lieux de convivialité ou de discussion collective. Et en dehors de ça, ben, forcément, le mariage en soi, ben, j'étais toujours présent pour observer l'ensemble du processus. Mm-hmm. Et puis, je dirais ce qui est assez intéressant dans cette enquête, c'est que j'ai pu m'intégrer dans une petite entreprise. Donc, spécialisé en organisation du mariage. Donc, ça veut dire que en Chine d'aujourd'hui, et les jeunes couples, quand ils veulent se marier, souvent, ben, ils font appel à une entreprise spécialisée en organisation de mariage. Donc, pour prendre photos en robe nuptiale, pour faire des vidéos aussi, pour enregistrer visuellement leur mariage. Et du coup, j'ai eu la chance de travailler en tant que stagiaire ou bénévole dans une entreprise locale. Et ça m'a aussi permis de sortir un peu de mon village pour observer donc les mariages qui ont eu lieu dans les autres villages dans les environs.
Et quand vous travaillez, enfin quand vous avez candidaté pour travailler dans cette entreprise où vous avez explicitement expliqué ce que vous alliez faire?
Alors que c'était quand même en milieu rural, donc les gens se connaissent petit à petit, voilà, et il y a toujours des liens, voilà, ce n'est pas si anodin que ça, mais du coup, voilà, le patron de cette entreprise-là qui doit être un cousin d'une collègue de ma mère. Voilà. Ce qui fait que ma mère est basée là-bas pour parler avec les gens, pour dire voilà, mon fils il travaille sur le mariage, ben, comme on sait que vous avez une entreprise, est-ce que c'est possible de lui faire venir ici? Ben, ils sont assez contents de ma venue parce que justement, je suis arrivé un mois avant le nouvel an chinois et ils ont besoin aussi du personnel pour les aider à travailler
et
c'était le moment le plus occupé et plus lucratif aussi et comme j'apporte mon aide bénévolement, donc je pense qu'ils sont très contents aussi. On a passé un moment assez sympa en tout cas pendant plus d'un mois.
Et donc vous n'étiez pas réellement employé par l'entreprise si vous étiez là bénévolement?
Non, je ne suis pas vraiment employé, hein, je suis vraiment bénévole, hein, mais je les accompagne, je fais toutes les activités qu'ils ont fait. Et pour, par exemple, préparer toutes les séquences photos pour les jeunes fiancés, ou encore le jour J, hein, je viens aussi à la famille, avec eux pour aller dans la famille de la fille pour la récupérer et puis pour l'amener dans la famille du garçon. Comme en Chine, le mariage est patrie virile locale, c'est-à-dire que c'est la jeune femme qui doit se déplacer pour aller chez son mari.
Oui.
Et du coup, l'étape de transfert de la jeune mariée est très importante. Du coup, même nous, en tant que personnel qui travaille dans une entreprise, on doit filmer l'ensemble du processus. Et donc, ça veut dire que j'ai pu aussi aller donc, chez la famille de la fille et puis j'accompagne la fille et ses parents pour l'accompagner donc, tout au long de ce transfert de la jeune mariée.
D'accord.
Et est-ce que sans passer par cette entreprise-là, vous auriez pu assister à ce genre de moment?
Super question. Et, en fait, c'est pas tout à fait facile hein, parce que, mine de rien, il y a quand même une distinction hein, de sexe ou de genre dans la vie quotidienne, ce qui fait que, en tant qu'homme, parfois, je peux pas vraiment tout à fait le bienvenu pour faire des observations. Mais là, c'est vrai qu'en tant que caméraman, tout ça, j'ai réussi à y passer dans l'inaperçu, hein, ce qui est assez sympa pour pouvoir justement observer l'ensemble de processus. Sinon, c'est sûr que, par exemple, pour l'ensemble des séquences rituelles qui ont eu lieu dans la chambre nuptiale avec la jeune mariée, ben là, souvent, ce sont que des femmes âgées et mariées qui sont autorisées à être présentes.
Ah,
et là, comme on doit le filmer, du coup, ce qui fait que moi, en tant que jeune homme, je peux aussi être présent. Et puis, j'ai pu filmer, bien sûr, mais faire aussi ma recherche.
Mm.
Du coup, vous vous présentiez en tant qu'anthropologue au couple marié. Enfin, comment ça se passait, du coup, ce contact-là?
Oui, ce sont des choses qu'on voulait le faire, hein, effectivement. Au début, quand j'ai arrivé au village, j'ai dit, ben voilà, j'ai commencé une thèse, j'ai travaillé sur ça. Ben, bah, oui, tu fais une thèse, mais tu restes un petit village de chez nous.
D'accord.
Je pense qu'au bout d'un moment, ben, ils savent que je fasse une recherche sur le mariage. Mais je ne suis pas sûr que c'est l'information qu'il voulait vraiment redonner. Hein. Ce qu'il pense, c'est plutôt que voilà, je suis le fils de quelqu'un ou le petit-fils de quelqu'un qui a grandi dans un petit village. Et puis voilà, je retourne au village pour voir un petit peu comment se passe le mariage, tout ça. Et puis, quand je suis avec les gens, ben, je pense que le rôle le plus important, hein, c'est reste le fils de ou le petit-fils de. C'est pour ça que je pense que l'expérience dans cette entreprise-là, qui est assez importante pour moi, c'est de pouvoir sortir aussi de cette familiarité, pour garder une distance aussi, pour observer des mariages qui n'ont aucun lien, enfin, de parenté ou de proximité avec moi. Mais là, du coup, avec l'entreprise, ben, ils savent que je fais une thèse sur le mariage, mais quand je suis avec eux, quand je travaille avec eux pour faire des vidéos, tout ça, sur le mariage des gens que je ne connais pas, mais les gens que je ne connais pas, qui ne savent pas que je suis anthropologue, pour eux, je suis juste un personnel de l'entreprise.
D'accord.
Peut-être une question un peu plus générale. En anthropologie, on parle souvent de faire du terrain proche ou lointain, mais là, vous faites du terrain chez vous, techniquement, et comment est-ce qu'on est curieux de chez soi?
Et très bonne question, voilà. Et c'est vrai que on parle souvent de la distance avec l'enquête et puis du rapport à l'objet et puis de cette proximité, mais aussi du biais aussi, hein, dans la recherche. Les anthropologues qui sont formés en Chine ou à l'étranger, on a vraiment tendance à travailler sur la Chine, hein, parce qu'on fait une anthropologie ou une ethnologie chez soi. Et bien sûr, c'est simple, mais surtout parce que c'est quelque chose qu'on a du mal à faire ailleurs, honnêtement. Ben, surtout quand je suis arrivé en France, ben, c'est vrai qu'il y a des collègues qui m'ont dit que voilà, tu peux travailler sur la France, sur d'autres pays, mais c'est pas tout à fait ça fait. Mais là, c'est vrai que je voulais travailler sur un sujet assez classique en anthropologie de la parenté. Et comme je ne faisais pas anthropologie avant, j'ai fait un master en sociologie, donc je voulais travailler sur un sujet classique pour pouvoir me familiariser un peu avec les travaux classiques en anthropologie. Donc le mariage, ça reste un sujet assez classique à traiter en anthropo. Et puis sur la familiarité avec des choses, ben oui, je suis assez familier, mais du coup j'ai essayé de profiter de sa familiarité, mais bien sûr, il y a des biais aussi, comme des choses que vous n'avez pas à observer. Par exemple, les femmes célibataires ou toutes les choses un peu qui sortent du quotidien, hein, comme j'ai parlé un petit peu aussi de relations extra-conjugales, tout ça, mais là, je n'avais pas du tout à obtenir des informations. Mais du coup, je me suis dit, ben, c'est pas grave. Voilà, je travaille vraiment sur la normalité du mariage.
Pour vous qui avez fait votre terrain dans votre village natal, comment avez-vous fait pour ne pas tomber dans le piège de la banalité et rester éveillé à des détails qui peuvent, à force, nous paraître anodins?
Je dirais que ce que j'ai observé, bien sûr, ce sont des banalités, mais en soi, le mariage, ce n'est pas quelque chose assez banal en soi. Ça reste un événement ou un rite assez exceptionnel. On ne fait pas ça tous les jours.
Et non.
Et ce qui fait que c'est une banalité dans le sens où voilà, je connais bien les gens, mais je connais assez mal quand même le mariage en soi, comment ça se passe. Et du coup, ça reste quelque chose d'assez assez curieux pour moi, enfin, de pouvoir observer tout ce qui est tellement solennel dans le rite du mariage aujourd'hui, et puis de voir aussi comment ça évolue d'une année à l'autre. Et puis, par exemple, les négociations des prestations matrimoniales et qui a tellement changé d'une année à l'autre. Et puis aussi sur la composition de la dot, pareil. Voilà, au début, c'était peut-être un petit modo, c'était suffisant. Mais à la fin de mon terrain, ben, parfois, j'ai vu des familles qui ont offert, par exemple, une voiture à leur fille. Alors ça, c'est quelque chose qui a quand même beaucoup changé. Ben, ça reste, du coup, je ne sais pas, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est banal ou non. Alors, ça reste, pour moi, très exceptionnel, et puis je continue à apprendre aussi, à être surpris aussi.
Ah, okay.
Vous sauriez dire comment vous avez réussi à continuer à rester surpris?
Surpris parce que il y a un changement.
D'accord.
Je vois comment ça change. Par exemple, au début, quand je faisais mon enquête, Et que, par exemple, pour le mariage, il était suffisant, hein, par exemple, de construire une nouvelle maison dans le village. Et là, à la fin de mon enquête, ou même, il s'est redonné l'année dernière aussi, c'est que maintenant, ben, il faut absolument que le jeune garçon, ou la famille du jeune garçon, achète un appartement dans le centre-ville du district pour pouvoir entrer dans la négociation, par exemple. Et je pense que la Chine reste un pays qui change beaucoup, beaucoup, beaucoup vite, enfin, vraiment très vite.
D'accord.
Et même, enfin, je ne suis pas rentré en Chine pendant 4 ans avec la pandémie. Et que je voyais à quel point que le pays a changé, quoi. Enfin, par exemple, sur le TGV, il y a 4 ans, ben, il n'y avait pas beaucoup de lignes TGV. Et là, quand je suis retourné l'année dernière, donc après 4 ans, ben, même chez mes parents, dans une petite ville, enfin une petite ville qui a quand même 5 millions d'habitants, mais c'est pas une très grande ville à l'échelle chinoise. Mais on a vu qu'il y a tellement de stations de TGV qui ont été construites.
Ah oui.
C'est assez impressionnant, mais y compris... la route aussi, l'état de la route. Voilà. Il y a 4 ans, c'était pas comme ça, mais là, on voit que tout a été hyper propre, hyper bien fait. Donc, c'est vrai que chaque année, quand je retourne en Chine, soit pour voir ma famille, mes amis, ou pour faire mon terrain, je vois la différence, le changement. Donc, je pense qu'on ne peut pas passer d'inaperçu quand même. C'est assez surprenant parfois.
Et ouais. Est-ce que c'est une volonté des couples de... changer et peut-être de faire les choses à chaque fois un petit peu différemment de
d'être
ceux qui connaissent, voilà, c'est
ouais.
ça,
d'innover.
Oui, je pense que vous avez raison, hein. Il doit y avoir une part de ça pour rénover un petit peu les pratiques, ou on peut dire voilà, pour moderniser un peu les pratiques aussi. Mais je pense aussi qu'il y a aussi cette volonté de pouvoir s'approcher aux pratiques du milieu urbain.
Parce que
c'est avant tout donc, les jeunes urbains qui ont commencé, par exemple, les pratiques de photographie en robe nuptiale. Et petit à petit, cette pratique-là qui commence à être diffusée en milieu rural. Donc,
d'accord.
On voit que, voilà, il y a quand même un cheminement des pratiques ou une évolution des pratiques en fonction du milieu social, mais aussi en fonction des provinces ou des villes ou des villages.
D'accord.
Du coup, pour revenir un petit peu en arrière, comment avez-vous fait pour retrouver une position d'anthropologue alors que les gens vous considériez comme un employé de cette agence matrimoniale ?
Et oui, ben, je pense que c'est le travail justement de l'anthropologue. Quand on est sur le terrain, il faut qu'on soit proche des gens, il faut créer une forme de proximité aussi. À la base, quel est le rapport qu'on a avec nos terrains. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'anthropologues, même en France, tout ça, qui sont allés faire leur terrain, je ne sais pas dans quel pays, qui sont parfois des fils ou filles adoptives.
D'une femme. Oui,
bien sûr.
C'est normal qu'on doit créer ce type de proximité-là pour pouvoir vraiment être dedans, pour bien observer les choses. Mais après ça, ben, une fois qu'on arrive à collecter assez de données pour notre recherche, mais c'est un autre travail aussi de pouvoir sortir du terrain des données brutes pour pouvoir les classer, les analyser, ben, pour essayer de faire une sorte de... c'est vraiment la première étape, en fait, de l'ethnologie. Je dirais que c'est... c'est pas naturel, mais c'est quand même de notre travail de pouvoir analyser les données. Mais en même temps, c'est aussi notre travail de pouvoir rester très très proche de notre terrain, de construire des bons rapports, soit d'amitié, soit de liens de parenté, même avec nos terrains. Donc pour moi, c'était même inévitable. Mais après, forcément, ce type de proximité va créer des biais, mais c'est normal. On ne peut pas être complètement neutre, mais c'est comme ça.
Et ça, vous l'aviez déjà en tête en arrivant, ou c'est quelque chose que vous avez constaté dans votre manière, comme vous parliez un petit peu du fait que ce soit un peu naturel, voire évident? Vous, quand vous faisiez votre terrain, c'est quelque chose quand même que vous avez dû construire au fur et à mesure, ou vous vous êtes rendu compte au bout d'un moment que vous le faisiez et vous vous êtes dit « Oh là là, en fait, j'ai fait ça depuis le début ».
Je dirais que j'étais assez ambitieux au début de mon terrain, parce que je ne voulais même pas travailler que sur le mariage, je veux travailler sur l'ensemble des rites du siècle de la vie, donc le rite matrimonial, les funérailles, mais aussi la naissance.
D'accord.
Mais petit à petit, je me suis dit, bon voilà, déjà je ne peux pas tout faire, il faut que je fasse un choix. J'ai recentré vraiment sur le mariage, et après ça, ben, j'ai réalisé aussi, j'ai vraiment du des difficultés pour discuter avec des jeunes filles, ben là, ben mince, quoi, c'est un peu dommage, ben c'est comme ça.
Voilà, faut s'adapter.
Avec,
mmh.
Voilà. Faut faire avec, oui.
Et il y a, je pense, toutes ces choses-là qui commencent à construire petit à petit aussi, mais en fonction aussi du terrain, voilà, mmh. comment ça m'amène pour me questionner des choses. Et du coup, après les réflexions donc, de distance ou comment analyser les données, comment garder une sorte d'objectivité, mm. mais oui, ce sont des choses, je pense qu'on a un peu ça dans la tête, mais petit à petit, surtout dans l'écriture de la thèse, je pense qu'on commence à vraiment à comprendre, ben voilà, ben, il faut vraiment sortir de cette proximité pour essayer de partir un peu plus haut, pour voir les choses un peu plus claires. Et voilà, je pense que c'est plutôt ça. Ouais.
Vous venez d'aborder le passage à la thèse, mais du coup, comment les données brutes que vous aviez, notamment qui pouvaient être potentiellement sensibles pour les uns, vous parlez tout à l'heure de secret, comment vous avez traité toutes ces informations qui se partagent en fait au sein des familles pour les intégrer dans votre thèse?
Et je dirais qu'il n'y a quasiment pas beaucoup de secrets que j'ai... que j'ai pu collecter dans mon recherche. Mais par contre, ce qui est important, c'est de montrer qu'il y a des choses que je ne peux pas y avoir accès. Mais ça reste aussi une information importante pour nous.
Mmh,
pour donner
oui.
un exemple sur, par exemple, pour la fille, donc la jeune fille, donc Marie, qui, enfin, le jour J, par exemple, ses parents devraient lui offrir une dot. Et dans cette dot-là, il y a souvent aussi une somme d'argent qui est nommée l'argent mis au trousseau.
Oui. Bah,
c'est une somme d'argent qui ses parents lui a donné pour qu'elle l'amène et puis en cas de difficulté dans sa vie maritale, bah, mm-hmm. elle peut s'en servir. Et là, cette somme-là, je n'ai jamais eu la possibilité d'obtenir des informations sur combien.
Ah oui,
d'accord. Il y en a, voilà, dans tous les mariages que j'ai eu, que j'ai observé ou que j'ai discuté avec des gens, ben personne ne m'a pas dit combien il y a dans ce soi-disant argent mis au trousseau. Mais là, c'est parce que même pour les jeunes femmes, leur mari ne savait pas non plus.
D'accord, ok.
Et c'est assez intéressant aussi, mais comme les gens ne voulaient pas me dire, ben du coup, je demande pourquoi tu ne peux pas me dire. Mmh. Et puis quand son mari est là, son mari lui demandait, ben, alors, moi aussi j'ai envie de savoir, est-ce que tu peux me dire aussi? Elle ne dit pas non plus. Donc c'est une chose, parfois, il y a des secrets comme ça, mais même si on n'arrive pas à obtenir, voilà, à bercer le secret, mais ouais. le secret en soi est assez révélateur aussi, hein, pour comprendre les choses, par exemple.
Bien
c'est
sûr.
Surtout à travers de ces biais-là que j'ai travaillé un peu sur le secret.
Et lors des cérémonies, vous pouviez prendre des notes ou des photos pour vous et votre recherche?
Oui. Alors ça, c'est vraiment une facilité, je pense, pour le mariage.
D'accord.
C'est que, comme tout le monde prend photo, et que, oui, enfin, on peut le faire très, très facilement. Je pense que d'autres sujets peuvent être un peu plus difficiles. Par exemple, imagine que j'ai travaillé sur le rite funéraire, ben, je suis là, je prends une photo tout le temps, ben, ça peut être un peu dérangeant. Mais là, c'est le mariage, c'est vraiment assez simple à ce niveau-là, en tout cas.
Et je crois qu'on ne l'a pas précisé, votre terrain, au final, il a duré combien de temps?
Alors, c'est un terrain qui a duré dans l'ensemble pour une durée totale de 11 mois à peu près.
D'accord.
Mais j'ai pu passer plusieurs séjours, voilà.
Mmh.
Et par exemple, le premier séjour que je suis passé là-bas, c'était en été. Alors, je me suis dit, bon, voilà, je suis rentré là-bas, dans le village, pour travailler sur le mariage. Ben, très vite, j'ai réalisé qu'en fait, voilà, je suis rentré pas en bon moment. Hein. Il ne va pas des jeunes, tout ça.
Mauvaise saison.
Voilà. Et du coup, deuxième fois, ben, j'ai compris, quoi. Il faut vraiment rentrer avant et après le Nouvel An chinois pour pouvoir vraiment, vraiment observer, voilà. Et ce sont des choses, voilà, que je m'adapte aussi petit à petit, on dirait.
Comme toi, Lolé, quand t'es allée en Guinée la première fois.
Bah, la première fois où je suis partie, je voulais étudier l'agriculture. Et c'est à cause du calendrier universitaire, mais j'ai dû partir durant notre été et c'était vraiment la fin de la saison sèche, donc avant la période de l'agriculture là-bas. Et du coup, bah, j'ai juste vu le tout début des travaux agricoles, de la préparation des champs, mais en fait, je me suis retrouvée en me disant, bon, bah, je vais faire ce que je peux et on va en parler. Et je l'ai un peu déplacé la première année sur toutes les petites préparations en amont de la récolte des fruits qui vont tomber, tout ce genre de choses. Et du coup, pour le deuxième terrain, j'avais vraiment réfléchi, il faut que je parte un peu plus tard pour avoir vraiment la période agricole. Et...
Oui, c'est vraiment ça. Je sais pas pour vous autres aussi, hein, vous avez ce type d'expérience-là ou non? Vraiment de changer un peu de sujet en fonction de ce que vous avez rencontré sur le terrain, comment ça vous a amené à vraiment travailler sur autre chose que vous n'avez même pas pensé, par exemple.
Ah oui, oui. Moi, c'est un... je ne sais même pas comment appeler ça, un coup du sort. C'est une tragédie, moi, qui a vraiment déterminé toute mon étude. Mm-hmm. Parce qu'en fait, quand moi, je voulais travailler sur le nationalisme en Corse. Et en fait, quand je suis arrivée, vraiment, le jour où je suis arrivée, Yvan Colonne s'est fait assassiner en prison. Donc, c'est le prisonnier... c'était le prisonnier politique le plus emblématique de la lutte. Et donc, en fait, ça a déclenché toute une mobilisation, des émeutes. Et en fait, tout mon terrain s'est construit autour de ça. Parce qu'en fait, juste, j'ai été englobée dans la vague. Et comme on dit, il faut absolument s'adapter et il faut suivre le train, en fait. C'est tout. Vous disiez que vous avez aussi étudié le choix du conjoint. Et donc, je me dis que vous avez dû forcément traiter de comment on tombe amoureux ou quels sont... parfois les intérêts de choisir un conjoint plutôt qu'un autre. Est-ce que vous direz que votre étude s'inscrit quand même dans ce champ nouveau de l'anthropologie de l'amour ou
Oui, je vois l'idée hein, de l'anthropologie de l'amour, mais c'est vrai qu'à l'époque-là, quand on travaille sur le choix du conjoint, on a parlé de l'amour, mais je dirais pas que c'est vraiment ma préoccupation principale de l'époque. Parce que j'avais quand même un questionnement quand je voulais travailler sur le choix du conjoint.
Ouais.
C'est que le débat scientifique hein, de l'époque sur le choix du conjoint en Chine, c'est que voilà, soit on voulait qualifier le mariage en Chine c'est un mariage d'arrangé, ou classiquement voilà, c'est un mariage d'arrangé, ou parce qu'il y a un mariage d'amour et on voulait vraiment mettre l'accent sur le choix individuel des conjoints.
Et oui.
Et donc, cette forme d'individualité. Et c'était vraiment sur ça que je suis parti, voilà, pour travailler sur le choix du conjoint. Est-ce que c'est vraiment mariage d'amour, mariage d'arrangé, ou c'est un choix individuel ou non? Et que, donc, je suis vraiment amené à travailler sur les négociations entre, bien sûr, les deux conjoints, voilà, comment les deux se négocient, voilà, soit pour tomber amoureux, soit pour créer un lien de conjugalité, ou plus important, c'est comment les parents de chaque côté s'impliquent aussi pour prendre la décision voilà, de choisir un conjoint.
D'accord,
et
ouais.
Ce qui est intéressant, c'est que voilà, bien sûr, il y a l'amour qui existe, voilà, ça on ne peut pas dire au contraire, mais j'ai envie de dire aussi qu'il y a quand même une très forte inégalité aussi.
D'accord.
Ça veut dire que ça a été prouvé aussi par des sociologues qui travaillent sur la Chine, c'est que les jeunes qui vivent en milieu urbain qui ont plus de possibilités de tomber amoureux d'un autre et de entrer dans un mariage soi-disant vraiment basé sur l'amour que les gens qui viennent du milieu rural. Parce que les gens qui viennent du milieu rural, comme ce que j'ai enquêté dans mon terrain, ce qui est vraiment plus important, c'est de se marier.
Ok,
voilà.
Ouais.
Bon, donc forcément, voilà, on voulait se marier avec quelqu'un avec qui on est amoureux, ce sera vraiment super. Mais quand ça n'arrive pas, et puis tant pis, quoi, voilà, on va quand même se marier. C'est la réalité. D'accord. Et que surtout pour des jeunes qui travaillent dans les usines, par exemple dans les grandes villes ou dans les banlieues urbaines, et qui travaillent 6 jours par semaine, de 7h jusqu'à 19h, et puis qui vivent dans des dortoirs, et dans leur usine, il n'y a que des garçons, il n'y a pas de filles, du coup, forcément, ils n'ont pas de possibilité de rencontrer l'amour. Et puis, à 23 ans, 24 ans, les parents ont dit, il faut se marier. Là, on réalise que voilà, on vient quand même du milieu rural, on n'a pas beaucoup de moyens financiers, puis on n'est pas très bien doté quoi, dans le marché matrimonial, et qu'on a besoin de nos parents pour nous aider financièrement. Qu'est-ce qu'on fait? Du coup, on choisit le conjoint avec les parents, ou on est même content que les parents participent parfois. J'ai rencontré vraiment des jeunes qui m'ont dit « Ah ben, je suis vraiment content, mes parents sont là, qui ont trouvé des entremetteurs pour m'aider à trouver une femme, ou qui ont acheté, ou qui ont contribué à acheter un appartement. Sans eux, je peux pas me marier. » Je pense que la réalité n'est pas trop la même chose. Hein. Mais si je travaille sur en grande ville à Pékin sur les gens et super diplômés qui travaillent dans des grandes entreprises, mais là je pense que l'amour est vraiment un sujet très très important à creuser. Mais en milieu rural, je pense que ça reste assez illusoire pour moi.
D'où négociation et compromis.
Ouais.
Tout s'explique.
Tout à fait.
Absolument.
Du coup, je me questionne aussi, mais comment est-ce que vous avez traité la question de l'homosexualité, par exemple?
Ah, très bonne question. Et non, justement, voilà, ce sont des sujets que je ne peux pas en parler déjà sur mon terrain. Et du coup, je peux revenir aussi sur la question sur la distance, hein, sur mon terrain aussi. C'est que moi, par exemple, je suis gay, je suis homo. Et que c'est vrai qu'à l'époque-là, je voulais travailler sur le mariage aussi, c'est parce que je ne comprends pas le mariage, pourquoi c'est si important en fait. Pourquoi il faut absolument se marier, comme si on ne se marie pas, on est plus considéré comme une personne normale. Quoi. C'est quand même assez étrange à l'époque, enfin, en tout cas pour moi. C'est pour ça que je voulais travailler sur cette institution du mariage, pour à quel point que le mariage est une institution, et puis la plupart des gens, quand ils sont hétéros, tout ça, ils ne posent pas de questions. Mais moi, je pose question quand même, parce que je me dis que c'est quand même bizarre, il faut absolument se marier avec une personne de sexe opposé. Voilà. Et voilà, si vous voulez, c'est ça peut-être le côté qui est un peu qui crée une très forte distance avec les reins, c'est pas voilà. Et puis l'homosexualité, je parle pas vraiment sur le terrain, voilà, c'était compliqué.
Et que
les gens, forcément, ils ne voulaient pas en parler, et puis moi aussi je me sentais pas très à l'aise non plus dans parler avec des villageois. Je ne sais pas comment me positionner aussi. Et que c'est pour ça que voilà, aujourd'hui, j'ai travaillé sur la question de homoparentalité, sur la question de mouvement LGBT, mais en milieu urbain. Et là, du coup, je suis avec des gens que je ne connaissais pas, et je trouve que c'est plus facile pour moi d'aborder des sujets. Donc, ce sont des biais aussi, je suis sûr. Du coup, c'est ça qui crée aussi le choix du sujet. Voilà. C'est un sujet que je ne peux pas travailler en milieu rural, je travaille en milieu urbain.
Mais d'autant que vous étiez dans votre village, donc certes, vous avez vos questions d'anthropologue, mais vous aviez aussi le regard des personnes sur vous que vous connaissiez.
Et c'est ça, voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui est réciproque, en fait. Voilà. Eux, ils ne veulent pas me dire tout ce qu'ils pensent, voilà, des autres gens, pour que moi, je ne porte pas un regard sur eux.
Et
mais à l'inverse, moi aussi, je n'ai pas envie non plus de me révéler ou de parler toute ma vie devant eux. Parce que ça peut créer des impacts aussi. Ce qui fait que, on a choisi de travailler sur un truc assez conventionnel.
Très bien.
Merci beaucoup, Renew. Pour cette dernière question, qui est une tradition dans Carnet de passage, on a entendu une bande sonore au début de cet épisode qui a été choisie par vos soins. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les raisons de ce choix ?
Oui, alors que du coup, j'ai choisi un éclatement des bédards. Voilà, donc c'est quelque chose qui est assez important pour le mariage, parce que on doit toujours faire du bruit dans le mariage. Et là, pareil, donc il a un éclatement de pétard. Comme par exemple, la jeune mariée qui est arrivée dans la famille de son conjoint. Mais il y a aussi beaucoup d'éclatements de pétard tout au long de ce trajet de transfert. Pourquoi ? Parce que les filles en Chine, je pense dans beaucoup de cultures aussi, qui sont considérées comme des personnes un peu impures. Ce qui fait que pendant le transfert de la jeune mariée, qui en plus a un rite de passage, donc comme vous le savez aussi, c'est la deuxième étape d'un rite de passage, donc tout est suspendu, donc forcément, elle est encore plus susceptible d'être attaquée par des démons, tout ça. Mais du coup, on a éclaté des bédas pour faire peur aux démons, pour qu'elle puisse arriver tranquillement chez sa belle famille. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là.
Et pour ce qui est de l'image de cet épisode aussi, elle a aussi été choisie par vos soins.
Oui, alors l'image, c'était un peu plus facile comme choix. Donc, j'ai justement choisi la couverture de mon livre qui apparaît dans les presses de Dina Lego. J'ai choisi cette photo-là parce que c'est tout simple. Hein, c'est une photo avec un jeune couple qui s'habille justement en costume pour le garçon et puis en robe nuptiale pour la fille, et que j'ai choisi de ne pas mettre les visages des deux conjoints pour deux raisons. Première raison, tout simplement pour protéger un peu les informations des gens. Deuxième raison, c'est pour montrer aussi que le mariage en milieu rural, on peut dire que les protagonistes sont les deux jeunes mariés, mais en soi, leur visage ou ce qu'eux ils veulent ou non, qui sont quand même pas si importants que ça. Ça veut dire, ce qui est important, c'est quand même, j'ai envie de dire que l'ensemble de conjonctions familiales, parentales qui font que les jeunes doivent se marier à quel ou quel moment ou quel âge. Et du coup, je pense que avec mon ami qui m'a aidé à réaliser ce dessin-là, c'est qu'on a choisi de mettre le jeune couple tout en noir, donc qu'on ne voit pas. le visage.
Eh bien, écoutez, merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Merci Alexis, merci Robin et merci Lola. Nous remercions aussi la Maison de l'Image et du Numérique de l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Carnet de Passage sur Spotify, Deezer et sur la plateforme Miroir de l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Merci à tous et à très bientôt pour un nouvel épisode de Carnet de Passage.